Débat, Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Et merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Je vais vous présenter cette émission sans ma collègue Lydia Niacha, qui est actuellement en vacances, des vacances bien méritées, comme de bien entendu. On lui souhaite évidemment de bonnes vacances et on lui envoie nos meilleures pensées. Au sommaire de cette édition, au Mali, peut-être un tournant dans la crise sécuritaire avec la confirmation par le président Ibrahim Boubacar Keïta d'un possible dialogue avec des chefs de groupes djihadistes. Une manière, selon lui, d'explorer de nouvelles voies de sortie de crise. Quels pourraient être les termes et les issues d'un tel dialogue ? Explication et décryptage dans cette édition. Autre actualité, la Guinée-Conakry, toujours sous le signe des tensions politiques à 2 semaines des élections législatives et d'un référendum constitutionnel aux issues prévisibles, ouvrant la voie à un 3e mandat pour le président Alpha Condé, une hypothèse que n'écarte plus le principal intéressé. Nous en parlerons dans cette édition avec nos invités. Et enfin, le Soudan où le gouvernement a précisé sa position sur un possible transfèrement à la Cour pénale internationale de l'ancien président Omar El-Béchir pour des faits commis dans le cadre du conflit du Darfour au début des années 2000. Que penser de cette décision qui intervient quelques mois après la destitution de l'ancien homme fort de Khartoum? Nous en parlerons aussi dans cette édition. Voilà donc pour le sommaire. Notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako, Lassine Bouaré, ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale du Mali. Lassine Bouaré, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Conakry, Idrissa Sompare, journaliste à Espace FM installé à Conakry. Idrissa Sompare, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation, comme de coutume, du grand témoin Lassine Bouaré, détenteur d'une maîtrise d'un diplôme de 3e cycle de l'École nationale d'administration publique de Rabat au Maroc. Vous avez poursuivi des études à l'École nationale d'administration de Paris. Et entre 2001 et 2002, vous avez débuté une carrière professionnelle à la Direction nationale des industries en 1989, puis au commissariat à la réforme administrative entre 1990 et 1994. Vous exercerez ensuite les fonctions de chef de la cellule de développement à la mission de décentralisation et de réformes institutionnelles, de conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales chargées des questions de décentralisation et de développement local. En 2002, vous êtes nommé conseiller technique à la présidence de la République du Mali pour gérer les questions de politique et de gouvernance, poste que vous occupez jusqu'en 2003, directeur de l'Institut national de prévoyance sociale de 2003 à 2009. Vous serez nommé en avril 2009 au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget dans le gouvernement remanié de Modibo Sidibé sous le mandat du président Amadou Toumani Touré. Début avril 2011, vous êtes nommé ministre de l'Économie et des Finances. Vous êtes actuellement en charge du ministère de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, poste que vous occupez depuis le 9 septembre 2018. Lassine Bouaré, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler tout de suite du Mali, justement. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a précisé pour la première fois cette semaine, lors d'une interview, l'ouverture d'un dialogue avec les chefs d'État, les chefs djihadistes, Iyad Agali et Amadou Koufa. Un nouveau protocole de résolution de crise qui marque un tournant dans la politique sécuritaire du gouvernement, un pari forcément risqué, comme le reconnaît lui-même le dirigeant malien. Lassine Bouaré, avant d'aborder ce sujet, on va rester quelques instants sur ce qui a marqué l'actualité malienne cette semaine. Le retour effectif ce jeudi 13 février de l'armée malienne reconstituée dans la ville de Kidal. Quel est votre sentiment au lendemain de cette opération ?
En fait, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. D'abord, un sentiment de satisfaction, parce que quand même cela montre que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dont j'assure la coordination en termes de mise en œuvre. Mmh. Donc cela traduit que cet accord, malgré les difficultés et les retards dont sa mise en œuvre a accusé, fait quand même son bonhomme de chemin. Mmh. Et pour la simple raison que ce volet sécuritaire est certainement le volet le plus complexe compte tenu de l'environnement dans lequel nous sommes et également de l'évolution de cet environnement marqué par une certaine dégradation.
Oui.
Donc, le redéploiement de l'armée nationale est reconstitué, comme cela est dit dans l'accord, et qui n'est rien d'autre que l'armée nationale avec l'intégration des anciens éléments des mouvements armés qui respectent les conditions d'intégration. Donc, cette armée reconstituée est appelée à se redéployer sur l'ensemble du territoire et particulièrement les zones qui se caractérisent aujourd'hui par un certain vide sécuritaire et qui sont les régions du Nord. Donc, ce premier déploiement dans la région de Kidal constitue une avancée certainement symbolique, mais qui, quand même, dans le fond, est trace de bonnes perspectives pour l'accélération du reste du processus. Donc, un sentiment de satisfaction et aussi un encouragement à l'égard de tous les acteurs et qui ont œuvré de concert, chacun en mettant le sien pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui avec ce premier déploiement.
Monsieur le ministre, Lassine Bouaré, alors cette opération ce jeudi a été encadrée par des éléments de la MINUSMA. Est-ce que cela signifie que la MINUSMA continuera à encadrer cette armée malienne reconstituée dans la ville de Kidal?
Je pense qu'il faut parler beaucoup plus en termes d'appui que d'encadrement.
Oui.
La MINUSMA est là pour nous appuyer, apporter son assistance, notamment en logistique. Donc, dans le cadre de ce premier déploiement, il était important pour rassurer l'ensemble des parties prenantes et aussi tirer avantage de l'existence de l'armée et de faire en sorte qu'elle puisse nous accompagner, notamment sur le plan logistique et être présente aussi parce que quand même, elle a un rôle important de facilitation entre les parties. Sinon, comment vous pouvez imaginer que permanemment une armée puisse être encadrée, accompagnée et pour aller faire son travail là où elle doit le faire? Non. Je pense que ne regardez pas sur ce temps. Et c'est un accompagnement, c'est un appui que l'armée a offert et nous en sommes très reconnaissants à cette mission d'un appui au maître. Voilà.
Monsieur le ministre, alors. Monsieur le ministre, parlez bien dans le combiné parce qu'on ne vous entend pas très bien, s'il vous plaît.
Après, je suis en train de parler dans le...
Voilà, c'est mieux là.
Oui,
c'est ça, parce que votre voix recule, effectivement. Oui. Alors, monsieur le ministre, alors, vous l'avez dit, hein, pour les autorités maliennes, cet épisode constitue une avancée majeure dans l'application de l'accord de paix, l'accord d'Alger. Et quelle sera désormais la place des groupes armés rebelles présents à Kidal dans ce nouveau dispositif? Parce que ces groupes sont toujours présents quand même. Comment va se passer la cohabitation entre l'armée reconstituée et les anciens rebelles qui ont quand même élu domicile à Kidal depuis plusieurs années?
Je pense qu'il faudrait essayer de lire pratiquement l'ensemble des dispositions de cet accord. Il est dit que l'ensemble des forces, donc de ceux qui disposent des armes, vont faire l'objet d'une démobilisation.
Oui.
Donc jusqu'à ce que la démobilisation gérée dans le cadre du programme de DDR puisse arriver à ce terme.
Oui.
Enfin, vous trouverez nécessairement ceux qui ont des armes et qui sont recensés comme tels, comme présents sur le territoire aux endroits où ils étaient. Et en tout état de cause, il s'agit de travailler maintenant en étroite collaboration et faire en sorte que l'armée reconstituée, qui est quand même la force réunie des souverains, puisse exercer l'intégralité de ses attributions et que les éléments armés soient cantonnés dans un endroit bien précis en attendant que le processus de désarmement se termine par leur intégration lorsqu'ils remplissent les conditions ou leur démobilisation pour être réinsérés dans la vie économique et sociale. Donc ce tuilage entre les différents acteurs en principe ne posera pas de problème particulier. Parce que le mouvement armé, rebelle ou pas, je pense que nous sommes tous des Maliens et l'objectif commun, c'est d'arriver à la mise en œuvre intelligente de cet accord pour essayer de ramener la paix et la cohésion sociale dans notre pays sans lesquels il n'y a pas de développement. Donc n'ayez aucun souci, et ça va se gérer dans la plus parfaite harmonie possible. Nous y veillerons et certainement j'y veillerai en tant que ministre chargé de la coordination de la mise en œuvre de l'accord.
Donc vous nous dites très clairement, monsieur le ministre, là, que ce retour de l'armée malienne reconstituée dans la ville de Kidal consacre pleinement le retour de l'État à Kidal.
Mais bien sûr, penser que l'État était absent à Kidal, je pense que c'est une forme d'exagération.
Il était relativement absent, disons.
Oui, voilà. Il ne sert à rien de stigmatiser une partie du territoire. Certes, nous avons des difficultés, mais savez-vous que le gouverneur, qui est quand même le premier représentant de l'État à Kidal depuis, et également plein d'autres services sociaux de base sont en train de fonctionner à Kidal à travers les représentants, en l'occurrence les directeurs généraux, les directeurs régionaux concernant ces différents services.
Oui.
Donc l'armée, qui est quand même l'outil régalien de défense et de sécurité, n'y était pas pour les raisons que vous savez, et maintenant cette armée, elle y est. Et petit à petit, on va faire en sorte que l'ensemble des membres de l'État, notamment ceux qui donnent les services sociaux de base et aussi ceux qui s'occupent des questions de sécurité urbaine et consorts, petit à petit, on fera en sorte que l'État y soit dans sa plénitude.
Oui.
Mais tout ça, ça doit se faire progressivement et pour tenir compte de l'environnement de crise profonde et qui, quand même, ça fait quelques années que ça dure. Et pour que, comme je le disais tantôt, on puisse essayer de combiner nos intelligences collectives pour sortir par le haut d'une situation qui n'est pas des plus simples, reconnaissons-le ensemble.
Bien sûr. Lassine Bouaré, alors parlons à présent de ce dialogue disons, évoqué par le chef d'État malien avec certains groupes considérés comme terroristes. On parle précisément de certains chefs de ces groupes, tels que Amadou Koufa et Liad Ag Ghali. Qu'est-ce qu'il faut attendre précisément de ce changement de ligne de la part du gouvernement et surtout, quels peuvent être les termes de ce dialogue ?
Changement de ligne, vous savez, quel que soit...
Oui, il y a un changement de ligne, oui. Il y a un changement de paradigme.
À ma connaissance, chaque conflit, quelle que soit son âpreté et son temps, finit toujours par des discussions.
Oui.
Et d'autant plus qu'un conflit qui, quelles que soient les divergences d'opinion et de vision, plus ou moins concerne les fils d'un même pays, quels que soient les jugements de valeur qu'on puisse porter sur les uns et les autres. Donc, essayer aujourd'hui de dire qu'on va discuter avec des acteurs de ces conflits qui ne sont pas des acteurs négligeables, quel que soit le génome qu'on peut porter sur leur personne.
Oui.
Donc je pense que c'est une chose normale et qui ensuite s'inscrit dans une stratégie, à mon avis, qui correspond à la vision que les autorités du Mali ont toujours développée, à savoir la résolution des conflits prioritairement par le dialogue et la réconciliation. Mais cela dans le respect d'un certain nombre de principes élémentaires.
Oui.
Parce que vous savez, la vie humaine est sacrée.
Oui.
Donc tout ce qui peut contribuer à faire économie des tueries inutiles, à faire économie des vies de nos compatriotes, notre responsabilité au premier rang de notre il y a le chef de l'État, son excellence, monsieur le président de la République. Donc sa responsabilité première, c'est de garantir et d'épargner la vie de ses concitoyens.
Oui, mais monsieur le ministre, le problème, c'est que voilà, on n'a pas affaire à un conflit classique parce que les groupes, disons, qualifiés de djihadistes sont considérés comme des organisations criminelles qui, contrairement au mouvement de rébellion, ne formulent pas de revendications politiques. Alors, compte tenu de la nature même de ces groupes, quel type de conversion peut-on leur proposer ? Quel type de dialogue peut-on engager avec eux ?
Cela fait l'objet de... D'abord, le premier élément de dialogue, c'est qu'il ne sert à rien de tuer les populations civiles innocentes.
Oui.
En tout état de cause, quel que soit le projet politique, quel que soit le projet qu'on a, qu'on soit islamiste.
Mais il n'y a pas de projet politique identifié, monsieur le ministre, c'est ça la question.
Non, attention, parce que quel que soit, même le fait de qualifier quelqu'un d'islamiste déjà en soi, c'est un projet qui n'est pas l'un d'être connu.
D'accord, enfin le projet, c'est de se substituer à l'État existant.
C'est pour faire le bonheur des gens.
Oui. D'accord, ok. On peut partir du principe qu'il y a un projet politique, mais c'est un projet politique qui est destiné à se substituer à l'État existant.
Vous savez, se substituer à l'État existant, ne pas se substituer à l'État existant, bref, en tout état de cause, on veut faire le bonheur des populations, oui ou non ? Pensez-vous qu'on fait le bonheur d'un mort sauf à lui proposer le paradis ?
Oui, difficile de faire le bonheur des populations en les tuant,
Dès lors qu'il en est ainsi, C'est le premier élément, la première base, c'est de convaincre les uns et les autres de vraiment arrêter cette tuerie, ces zones d'économie des vies de nos compatriotes.
Mais oui. Alors,
on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un en le tuant.
Alors, autre question, monsieur le ministre. Est-ce qu'il faut parler avec tous les chefs djihadistes ou s'agirait-il d'un dialogue sélectif?
Tous les chefs djihadistes, encore faudrait-il que vous me donniez la liste nominative de tous les chefs djihadistes.
Bien sûr, mais les mouvements djihadistes constitués sont identifiés.
En essayant même de se qualificatif, un peu djihadiste devient une sorte de fourre-tout.
Alors, disons terroriste.
En soi, voilà, une fois que quelqu'un est qualifié de terroriste et qu'il a commis un acte terroriste,
oui,
quelles que soient les discussions avec l'intéressé, normalement, il appartient à la loi,
oui,
de s'appliquer pour vous sanctionner des faits que vous avez posés comme,
oui,
acte. Mais dire un tel est djihadiste, un tel ne l'est pas, oui, c'est dans les manuels ou dans les codes pénaux,
oui,
que j'ai visités. Après, le fait d'être djihadiste en soi, c'est peut-être à la limite question des convictions personnelles.
Bien sûr.
Mais c'est quand on pose des actes maintenant qui s'opposent à la loi qu'on devient un sujet à répression. Et là, les actes terroristes posés, quelle que soit la situation, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'exemption,
oui,
telle que prévue par les dispositions de la loi,
ils
ne peuvent pas être exonérés et nous ne le serons pas.
Donc il faut avoir.
C'est clair, ça c'est net.
Oui.
Voilà.
Donc il faut avancer d'un côté, je veux dire, en brandissant les rigueurs de la loi, et de l'autre côté, tenter de dialoguer. Mais est-ce que ces chefs djihadistes sont eux-mêmes demandeurs d'un dialogue avec l'État?
Vous savez, bon, comme je ne vous ai pas posé la question.
Mais selon vous?
Je pense qu'eux-mêmes, ils s'expriment un peu sur le sujet.
Oui, parce qu'on ne les entend pas.
Dit, voilà, c'est comme ça que je vois ça, mais essayer de dire qu'ils sont demandés, ils ne sont pas demandés, ça fait une sorte de présomption de ma part,
oui,
et une prétention comme si j'avais leur oreille et leur bouche alors qu'ils ne m'en ont pas dit. Mais je suppose que toute personne qui a un minimum de bon sens, et je pense que tous ses compatriotes,
oui,
qu'on puisse qualifier de djihadistes, enfin, comme je le disais tantôt, le premier argument qu'on met en avant, c'est qu'on travaille pour le bonheur de nos concitoyens, le bonheur de notre pays. Donc, dès lors qu'il en est ainsi, une offre de dialogue en soi doit être saisie par n'importe quel acteur de bonne volonté, quitte à ce qu'on puisse dire, voilà les conditions dans lesquelles je veux dialoguer. Puis, en tout état de cause, c'est au cours du processus de dialogue que les différents compromis peuvent se faire.
Oui.
Mais pas des questions de préalable de ceci, et reviennent un peu à rentrer déjà dans le fond du sujet. Mais maintenant, c'est une offre qui me paraît honnête,
d'accord,
qui est sérieuse et qui me paraît pertinente au moment où nous en sommes pour faire l'économie, enfin, des violences inutiles, et également épargner les vies de nos compatriotes.
Alors, on va continuer d'en parler, monsieur le ministre Lassine Bouaré, parce que est-ce que finalement, face à ce nouveau péril qu'on appelle terroriste, est-ce que l'État n'a pas perdu, ne reconnaît pas avoir perdu finalement ce qu'on appelait traditionnellement le monopole de la violence légitime, au point donc d'être amené à engager un tel dialogue avec des groupes terroristes, des groupes armés non étatiques?
Mais je pense que le contexte dans lequel nous sommes et l'évolution même de l'environnement global, l'État, je ne crois pas qu'il y ait un État qui ait aujourd'hui 100% le monopole de la violence.
C'est ça.
Et si on disait que le Mali, là, ça ne serait pas juste parce que nous avons connu quand même un mouvement de rébellion en 1963, en 1991, en 2006, en 2010. Donc l'existence même de groupes armés, quelle que soit la forme que ça prend, est une certaine perte de monopole de la violence par la puissance étatique.
C'est cela.
Et cela n'est pas propre à notre seul pays Mali.
Bien sûr.
Et nous essayons de faire de notre mieux pour que l'État récupère la plénitude de ses aptitudes en matière de monopole.
C'est ça.
Des services ou bien de l'offre de paix et de sécurité à l'ensemble des populations. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que l'État n'a pas le seul monopole.
Oui.
Et même malheureusement, l'État et les groupes armés qui sont quand même dans un cadre qu'on pourrait qualifier de réglementé à travers l'accord pour la paix et la réconciliation, ne sont même pas les deux seuls à posséder un peu cette capacité militaire et de violence. Les groupes pourrait qualifier de hors accord. Également, ils existent, c'est une réalité.
Monsieur,
et qu'il ne serait pas juste
Monsieur le ministre, on va devoir marquer une pause. C'est une pause technique qui s'impose à nous. Et on revient tout de suite pour reprendre le cours de cet entretien. À tout de suite.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako au Mali, Lassine Bouaré, ministre malien de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Et notre confrère invité dans cette édition que nous écouterons dans quelques instants pour un premier commentaire au téléphone depuis Conakry, c'est Idrissa Sompare, journaliste à Espace FM, installé, média installé à Conakry. Monsieur le ministre, on reprend donc cet entretien. Encore une question s'il vous plaît sur ce dialogue avant d'écouter notre confrère qui est à Conakry. Alors, comment, une des questions que se pose, en tout cas qu'on entend au sein de l'opinion, comment un État peut-il engager un dialogue avec des groupes armés désignés comme terroristes sans donner l'impression de capituler justement devant eux, sans donner l'impression de céder en quelque sorte à leur logique ?
Je pense que ça, ça ne me paraît pas très juste. Comme je le disais tantôt, n'importe quel conflit, y compris en cas où l'une des parties parvenait à écrire l'autre, ça se termine par des discussions, des négociations, surtout un conflit qui oppose l'État à une partie de ses citoyens, parce que les deux personnes auxquelles vous avez fait allusion, jusqu'à preuve du contraire, sont censées être des Maliens, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher. Dès lors qu'il en est ainsi, pensez qu'au fur de discuter avec les acteurs sur un sujet constitue une forme de capitulation, je ne crois pas que ce soit la meilleure des interprétations possibles.
Cela demande quand même une explication quand même en direction de la population. Je dis cela nécessite quand même une explication officielle en direction de la population pour que la population connaisse les tenants et aboutissants de cette démarche.
Vous savez, si vous regardez le dialogue national inclusif qui a été un exercice très réussi, organisé au Mali ici et qui a eu la participation quand même de l'ensemble.
Nous en avons parlé avec vous d'ailleurs récemment. Oui.
Voilà, donc si vous regardez un peu ces conclusions, justement, l'une de ces conclusions disait écouter, discuter, ouvrir les voies de discussion avec Iyad, avec Koufa. Donc, à travers ces deux personnes, c'est ouvrir les discussions avec les différents groupes. Mais il ne s'agit pas de discuter pour discuter, ni de renoncer à l'essentiel, ce qui fait notre caractéristique, à savoir vraiment la démocratie, et plus ou moins un certain nombre de libertés et de droits qui sont les fondamentaux, voire les béabas de notre société, de notre État. Donc il s'agit vraiment de tenter de les convaincre pour dire que la voie qu'ils ont prise, et quelles que soient les compréhensions qu'on peut avoir, n'est pas nécessairement une des meilleures voies pour l'évolution de notre société de façon générale, voire l'évolution gens pour lesquels ils prétendent emprunter cette voie de façon particulière et spécifique.
C'est ça.
Donc je pense que la raison finira par prévaloir et je suis sûr qu'on aboutira à une solution au bénéfice finish de la population malienne de façon générale.
Merci Monsieur le ministre Lassine Bouaré. Restez avec nous, on va écouter notre confrère Idrissa Sompare, journaliste à Espace FM à Conakry. Idrissa, vous m'entendez?
Oui, je vous reçois, Francis.
Voilà, bah, écoutez, quel est votre commentaire sur ce dialogue qui pourrait s'engager désormais entre l'État malien et les groupes qualifiés de djihadistes ou de terroristes?
C'est déjà un soulagement de savoir qu'il y a une volonté donc, d'échange, une volonté d'en finir avec cette guerre qui a créé beaucoup plus de psychose et aussi qui a des conséquences. Vous savez, la Guinée, par rapport au Mali, on le dit souvent, c'est deux poumons dans un même corps.
Oui.
Donc, quand il y a la paix dans ce pays, qui est quand même un pays frontalier à la Guinée, et qui est un pays avec lequel la Guinée entretient des relations de commerce, des relations également historiques, ça soulage. Moi, je me dis qu'il faudrait surtout qu'on essaye de renforcer ce climat donc, de confiance qui commence à à se placer entre les deux parties.
Est-ce que vous croyez à la pertinence de ce dialogue dès lors qu'on a en face des groupes qui, jusqu'à nouvel ordre, ne sont pas mis dans une position, je dirais, de négociation avec l'État, qui n'ont pas formulé de revendications politiques très claires, à part notamment l'instauration de la charia, des groupes au fond qui nient l'existence de l'État classique, quoi. Est-ce que vous pensez qu'un dialogue peut s'établir entre ces deux acteurs, ces deux parties?
Bon, c'est vrai qu'on peut avoir toujours ce côté de doute, hein, ce côté donc de méfiance, parce qu'on sait comment les djihadistes fonctionnent généralement, mais je pense que s'il y a un effort, et si il y a un effort en amont,
oui.
Il pourrait que les positions se rapprochent et que les uns et les autres mettent d'abord en priorité la population qui vit là, puisque c'est les premiers concernés. Et en plus, qu'on essaie d'être très clair là-dessus, puisque c'est un conflit quand même qui dure depuis des années. La psychose est vivace dans l'esprit des uns et des autres. Et il ne faut pas oublier aussi que des actions isolées peuvent également créer, même peut-être mettre en doute cette possibilité. Moi, je dis que pour l'instant, on est très méfiant là-dessus, mais on n'écarte pas quand même qu'il y a une possibilité donc que les parties se rapprochent, parce que c'est déjà... Et il y a un premier signe de volonté d'échange, il y a un premier signe au moins qu'on accepte. Oui.
Pour l'instant, la volonté dont vous parlez a été manifestée surtout du côté de l'État. Hein. On n'a pas entendu le groupe djihadiste, disons, envoyer une réponse.
Si, même s'ils n'ont pas communiqué, mais si déjà l'État, ils ont permis à ce que. Ils n'ont pas réagi par rapport à cette démarche de l'État, ça veut dire quelque part qu'ils sont, même s'ils n'ont pas donné leur position de façon assez flagrante, ça veut dire quelque part qu'il y a, en tout cas, un balisement. Qui est en train de se dessiner là. Moi, je vous dis que ce n'est pas qui communique, mais ce qui va se passer dans le futur, c'est ce qui sera le plus important. Il faudrait déjà mettre la population en confiance et surtout ramener ce climat descendre. Parce qu'il faudrait forcément passer par là.
Très bien. Restez avec nous, ça nous emparer. Lassine Boiré, monsieur le ministre. Alors, on a entendu plusieurs acteurs politiques de l'opposition au Mali émettre des réserves sur les vertus d'un tel dialogue. Est-ce que vous pensez obtenir un consensus de l'ensemble de la classe politique malienne pour entreprendre cette nouvelle phase?
Je pense qu'il faudrait d'abord, il y a un consensus pour la recherche de la paix. Alors, dès lors qu'il y a un consensus sur l'objectif, enfin, les chemins pour atteindre l'objectif sont plus faciles facilement peuvent obtenir un minimum de consensus.
Oui.
Et comme je vous le rappelais, le dialogue national quand même a balisé.
Oui.
Et ce dialogue national, à ce que je sache, était animé par pratiquement des participants qui étaient représentatifs du maximum de forces sociopolitiques de notre pays.
Certains partis politiques, et non des moindres, n'ont pas participé à ce dialogue.
Vous savez, vous faites un jugement de valeur.
Non, ce n'est pas un jugement, c'est un fait.
Le dialogue a commencé depuis le niveau communal pour venir au niveau des cercles, au niveau des régions, et ensuite au niveau de Bamako.
Oui.
Donc, les partis qui n'ont pas participé au dialogue, à ce que je sache, publiquement n'ont pas rejeté les recommandations et résolutions de ce dialogue.
Oui.
Si je me trompe sur ce point, vous pouvez me corriger. Et donc, j'en prendrai...
Enfin, Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, a émis des réserves permanentes contre ce dialogue.
Je ne crois pas qu'il ait rejeté les résolutions du dialogue.
Mais les résolutions ne l'engagent pas.
Les réserves, oui, peut-être la démarche ne l'engage pas, mais je ne crois pas qu'il soit contre la paix.
Ah oui.
L'honorable Soumaïla Cissé, il cherche la paix.
Oui.
Et les solutions pour la paix qu'il propose, il n'y a que deux solutions pour avoir la paix.
Oui.
D'abord, c'est la guerre pour une sorte d'extermination, cela ne sert à rien, car la guerre finira. Et ensuite, il y a les discussions. Donc, oui. Entre les deux, et je ne vois pas de chemin intermédiaire, sauf à combiner la guerre et les discussions. Donc, vous voyez...
Je vous parlais du consensus, monsieur le ministre, parce que vous vous souvenez quand même que lors de la signature de l'accord d'Alger, les partis de l'opposition ont beaucoup reproché au pouvoir politique, à l'État, de n'avoir pas justement associé tous les acteurs, toutes les sensibilités à cet accord.
Vous posez un problème un peu complexe, parce que dès lors que quelqu'un a été élu, et qu'on lui a donné le mandat pour représenter la nation,
oui,
devant certains problèmes précis et cruciaux, et il est obligé d'arbitrer. C'est ça sa responsabilité.
C'est ça.
Et pour ça, je vous renvoie à la leçon inaugurale célèbre que Maurice Brion avait donnée à l'université Senghor de l'Égypte. En fait, il arrive un moment où le premier responsable doit décider.
C'est cela.
Sa responsabilité. Et je pense que l'important, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
Oui.
Et l'objectif initial et essentiel, c'est la paix ici. Donc, le consensus jusqu'à quand ? Et consensus ne signifie pas aussi unanimisme, parce que nous sommes 12 millions.
D'accord.
Donc, vous parlez de consensus de l'ensemble des organisations, mais vous ignorez le terme consensus des 15 millions de Maliens, je m'excuse. On
c'est
est
ça.
Plus de 12 millions. Donc, vous voyez, on ne pourra jamais avoir le consensus de ces 15 millions, sauf à faire le tour pour que chacun signe, pour dire que je suis d'accord.
J'entends bien.
Donc, voilà, vous posez la question de représentativité de l'ensemble des forces organisées. Et je pense que ce consensus, il est en train de se construire et on l'obtiendra pour atteindre ce objectif important qui est la paix et la sécurité pour notre pays, mais également et essentiellement pour ces populations, voire la sous-région.
Merci, Lassine Boiré. Restez avec nous. On va aborder un deuxième sujet dans cette édition.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Avec Lassine Boiré, ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale du Mali, et notre confrère invité depuis Conakry, Idrissa Sompare, journaliste à Espace FM. On va parler de la Guinée, justement. Idrissa Sompare, Guinée-Conakry, avec un référendum constitutionnel sans suspense, hein, sans grand suspense en tout cas. Le projet du troisième mandat du président prêté au président Alpha Condé pourrait peut-être devenir bientôt une certitude. En tout cas, le principal intéressé n'est qu'à plus cette possibilité, considérant qu'il reviendra à son parti d'en décider. D'ailleurs, au sein du RPG, hein, le parti présidentiel, les langues se délient et le principal élément de langage consiste désormais à affirmer qu'on ne change pas un président dont le bilan est, selon le parti, aussi élogieux que celui d'Alpha Condé. Je vous pose la première question, Idrissa Sompare, ensuite on écoutera le commentaire, évidemment, ou les analyses du ministre, notre grand témoin. Idrissa Sompare, le 1er mars, donc, hein, les Guinéens iront aux urnes, pardon, pour un double scrutin législatif et puis le référendum. Alors, plusieurs partis ayant appelé à boycotter et même empêcher la tenue de ce scrutin, et compte tenu du contexte que vous connaissez, hein, de plus en plus tendu, quel pourrait être le taux de participation ? Est-ce que ce taux de participation sera l'un des enjeux de ce rendez-vous électoral ?
Forcément. Déjà, on le sent à travers la campagne pour les élections, qu'il n'y a pas un engouement sérieux autour. Donc, on ne sent pas, on n'est pas dans l'environnement d'une période préélectorale. On ne sent pas cette campagne. C'est vrai qu'il y a des missions qui vont à l'intérieur du pays, qui arrivent à mobiliser un certain nombre de personnes, mais on n'est pas à notre première expérience de campagne électorale en Guinée. On sent qu'à l'approche des élections, ça bouillonne, ça s'agite dans les déclarations, dans les médias, mais on ne le sent pas juste là. Ça veut dire quelque part que cette question donc de taux de participation, c'est une question assez importante et ça sera une notion qui sera prépondérante dans cette mission que le président dira. Peut-être ça va être pour le président de la République une autre démarche pour voir si cette volonté qu'il a, donc de briguer un troisième mandat, ça va être un test pour lui, cette campagne qui est en train de se mener. Au niveau de la population, ce que nous on craint ici déjà, c'est que dans certaines zones, est-ce que cette élection pourra se tenir ou est-ce qu'elle va se tenir sur le regard donc des forces de l'ordre qui vont essayer de les sécuriser, mais quand on sait que ça va être extrêmement difficile pour le pouvoir donc d'avoir en tout cas un contrôle sur tous les bureaux de vote, on ne pense pas que ce sera une mission facile. Vous l'avez dit, on ne sent pas, et aujourd'hui il faut quand même être honnête. On n'a pas besoin d'être un spécialiste des sondages pour savoir que les gens, la population en grande partie, n'adhère pas justement à cette démarche qui est déjà engagée.
Oui.
Le taux de participation. Ce qui pourrait m'étonner ou me surprendre, c'est quand il y aura même plus de 30% de participation, puisque sincèrement, on ne sent pas la volonté des uns et des autres d'aller vers ce référendum, qui est en grande partie rejeté par la population. On le sent sur les réseaux sociaux, on le sent dans les débats,
oui,
et dans les médias, on le sent également dans les réactions au niveau de la presse. C'est vrai que c'est un forcing qui est en train d'être préparé, mais ça va être très très compliqué. Il ne faudrait pas écarter que ça puisse même générer des moments de tension, des crises profondes. C'est cela, c'est ce que moi je vois, perçois déjà, avant même que cette élection arrive, il y a des zones qui ne sont vraiment pas prêtes à accepter donc, que ce référendum puisse se tenir là. Et je pense qu'il devait avoir au pouvoir donc, de chercher au moins à écouter la population, donc de ne pas aller vers le forcep, de ne pas aller vers en tout cas une mission suicidaire, parce que ça, moi je pense que c'est vraiment une mission suicidaire de faire le forcing quand on sait que la population en grande partie n'adhère pas. Ce n'est pas les réactions ou ces petites manifestations qu'on voit dans les médias d'État qui dénotent que en tout cas la population est prête à aller vers le référendum. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'effort, hein, en ce qui concerne les explications qu'il faut mener autour de ce référendum. Tous les esprits sont donc axés sur le troisième mandat visé par le président.
Bien sûr.
Et sinon, il y a des éléments donc, nouveaux qu'on veut introduire au niveau de la Constitution, mais le débat n'est pas à ce niveau. Tous les esprits sont donc préparés à ce troisième mandat.
C'est pour ça qu'on parle de la crise du troisième mandat, justement. Restez avec l'audience à son pari. Je me tourne vers Lassine Boiré. Monsieur le ministre, je sais que voilà, votre devoir de réserve ne vous permet pas de commenter cette actualité dans le détail, mais une question plus générale. Quel regard vous portez sur ce qu'on appelle donc la crise du troisième mandat en Guinée-Conakry ? Est-ce qu'on peut imaginer un tel scénario au Mali ?
Vous savez, chaque pays a ses réalités, chaque société a ses réalités. Et je pense que nous n'en sommes pas là pour le moment au Mali.
Oui.
Et comme dirait la sagesse populaire, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes plus ou moins concentrés sur les questions de sécurité. Et vous en avez fait allusion il y a quelques instants. Nous nous sommes concentrés sur les questions de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et pour le moment, toutes les propositions de révision de la Constitution qui même n'ont pas pu être mises en œuvre vraiment ne faisaient pas allusion à cette question de mandat.
Oui, je vous pose la question, Lassine Boiré, parce qu'il y a quelques mois, au Mali, il y avait eu également un débat sur une révision de la Constitution. Il y a eu donc beaucoup de tensions. Il y a la rue, évidemment, qui a contesté cette révision. Au Mali, l'État était resté à l'écoute de la rue. Finalement, cette révision a été reportée. Et finalement, ça a permis de restaurer la paix sociale. Pourquoi cela n'est pas possible ailleurs ? En Guinée, en l'occurrence.
Comment voudrez-vous que je puisse savoir pourquoi cela n'est pas possible ailleurs si je ne suis pas dans cet ailleurs? Je ne suis pas dans cet ailleurs, donc il me serait très difficile de donner un jugement argumenté et pertinent.
Mais quel est votre sentiment? Quel est votre sentiment?
Personnellement, je...
Est-ce que vous êtes inquiet, par exemple, quand vous observez ce qui se passe en Guinée? Vous êtes inquiet, navré? Quel est votre sentiment?
Je souhaite que la paix et la concorde reviennent dans ce pays voisin et frère. Et en termes d'inquiétude, je sais que c'est un peuple fondamentalement pacifiste, quel que soit ce qui se passe. Et je suis convaincu qu'ils sauront trouver les meilleures solutions à cette difficulté qui, j'espère, je suis convaincu, certainement sont passagères dans la vie d'une nation. Et toutes ces péripéties, on doit les inscrire dans le processus de construction de nos pays. Et ce processus-là, ce n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille, peut-être jalonné de difficultés, de problèmes, mais la sagesse finira toujours par être à mesure de régler, du moins je l'espère.
Merci, monsieur le ministre. Il dit ça sans parler. Encore une question. Vous le savez, vous avez certainement écouté cette interview cette semaine d'Alpha Condé, qui n'a pas écarté l'hypothèse très clairement d'un troisième mandat, hein, parce que à cette question qu'on lui a posée, il a répondu, je le cite, hein, « Ça, c'est le parti qui décidera. Pour le moment, ce n'est pas mon souci », a-t-il répondu. Est-ce qu'il faut définitivement considérer que ce référendum du 1er mars prochain sera juste une formalité qui ensuite permettra l'annonce d'une prochaine candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat?
Mais je pense que la sortie du président de la République
la question, monsieur le ministre, la question était posée à mon confrère d'Issa Sompari qui est à Conakry, je vous prie. Dis ça sans parler. Allez-y.
Oui, je disais que cette sortie du président de la République a le mérite justement d'élever le doute sur son intention justement de se préparer pour un troisième mandat. Mmh. Et ce n'était pas, chez nous, hein, c'était plus, c'est plus un, en tout cas, un secret, ce n'est qu'un secret des polichinelles.
Ah, d'accord.
Au niveau du parti, les responsables du premier plan ont eu à s'exprimer là-dessus. Et vous voyez, au niveau du siège également du parti, il y a eu des assemblées qui étaient axées spécialement sur ça. La volonté est manifeste et le président n'a peut-être pas voulu, un certain temps, il a contourné cette question depuis un certain temps, mais plus le temps se rapproche, plus il devient de plus en plus, en tout cas, il le dit de façon voilée. Mmh. Et quand on prend, justement, dès après sa sortie au niveau, donc après cette interview, il y a quand même le président du bloc, et au niveau de l'Assemblée,
oui.
qui a dit que le président Alpha Condé a 99,9% de chances d'être présenté par le RPG.
Ah oui.
Ça veut tout dire. C'est quand même le président du bloc au niveau de l'Assemblée, le bloc de la mouvance.
Donc le scénario se précise, quoi.
Oui, le scénario est déjà clair dans les esprits. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les manifestations qui se font, ça perd un peu d'intensité et le gouvernement a pu étouffer en tout cas cette manifestation en essayant justement donc de l'affaiblir même dans la zone qui était censée être la zone la plus agitée, la plus en tout cas motivée pour barrer la route. Aujourd'hui, les dernières journées, donc, les manifestations n'ont pas porté donc, un coup.
Oui.
Ça n'a pas créé de l'engouement. Et ça renforce davantage ceux qui sont en train de faire la promotion de ce troisième mandat-là,
oui.
Donc d'aller vers le forcing. Moi, je crois que ce n'est plus, il n'y a plus de doute là-dessus. Le président est résolument motivé à braver, en tout cas, ceux qui s'opposent à lui par rapport à ce troisième mandat. Oui. Il a quand même des lieutenants du premier plan qui ne cachent pas cette volonté. Et je pense que ça sera très compliqué, à moins que ça soit, en tout cas, au niveau de la population, une certaine. Un engagement populaire, un soulèvement, je ne vais pas soulèvement de façon pacifique, Donc, pour que.
Alors, comment peut-on encore, il dit ça à son pari, comment peut-on encore désamorcer cette crise?
Pour désamorcer cette crise, il faudrait déjà que le président, donc, d'écouter parce qu'il y a eu des religieux qui sont intéressés également à cette question.
Mmh.
Et pour désamorcer aussi, il faudrait que le président accepte que ça va être très compliqué pour lui d'aller vers un troisième mandat, quand on sait qu'il y a beaucoup donc de problèmes que le pays a connus, bien sûr, en son règne. Il y a eu, ça a battu tous les records de manifestation, et de règne, donc, que les Alpha Condé, il y a eu beaucoup plus de manifestations que de réalisations. Il y a eu beaucoup donc de morts.
Mmh.
On est pratiquement dans, on n'est pas loin d'aller vers le 200 morts, en tout cas, on est en train d'avancer vers ça. Donc, rien que pour la mémoire de toutes ces personnes qui se sont opposées à ce troisième mandat, il faudrait qu'on ait raison gardée, qu'on accepte donc de reculer et qu'ils ne suivent pas surtout en tout cas un entourage qui essaie de le pousser vers cette démarche qui va être très, 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 en tout cas, grave en termes de conséquences pour lui, parce que c'est quand même un président qui est attendu, qui a longuement œuvré dans l'opposition et qui est attendu.
Merci.
Pour amener en tout cas la paix et surtout il doit avoir à l'esprit que c'est quand même le timing est très mal placé.
Merci.
Pour demander à ce qu'il y ait un troisième mandat ou une révision de constitution.
Merci, Vincent.
En tout cas, dans l'accord de Ouagadougou, il était dit que 6 mois après, et qu'on puisse changer, en tout cas, travailler sur la constitution, il n'a pas fait. Il a fait 2 mandats et ce n'est pas maintenant à la fin de son mandat qu'il va.
On a bien compris, on va continuer à suivre cette actualité, Edissa Sampare. Je voulais aborder avec vous rapidement, monsieur le ministre, Edissa Sampare, un troisième sujet, très brièvement, hein, c'est l'actualité du Soudan avec ce transfèrement possible, hein, d'Omar El-Béchir, l'ancien président, à la Cour pénale internationale. C'est vrai que la question se posait depuis sa destitution par l'armée l'année dernière. Les nouvelles autorités allait-elle décider de transférer à la Omar El-Béchir sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis plusieurs années pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide commis lors du conflit du Darfour au début des années 2000? La réponse a été précisée ce 12 février par le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement soudanais, Omar El-Béchir, ainsi que trois autres inculpés dans le contexte de la guerre du Darfour, seront bien transférés à la CPI après étude, dit-on, des modalités avec la CPI. Monsieur le ministre Lassine Bouaré, alors, selon l'actuel gouvernement soudanais, cette décision serait motivée par les négociations en cours pour conclure la paix dans le Darfour. Est-ce que cette décision vous surprend?
Cette décision ne surprend pas outre mesure. Pour la simple raison que si c'est ça, le respect des engagements souscrits par les différentes parties et que c'est ça le respect du droit, enfin en tout état de cause, je pense que le respect du droit doit aller de soi pour n'importe quel acteur qui aurait souscrit à ce droit-là. Donc dès lors qu'il en est ainsi, enfin cette décision ne me surprend pas et...
Oui.
Vous savez, quelle que soit la durée, le droit, la vérité, ça finit toujours par triompher. Et peut-être que je pense même que c'est l'occasion pour les éventuels accusés, entre guillemets, de se laver éventuellement des soupçons au cas où ils estiment que ce qu'on leur reproche ne serait pas fondé.
Oui, on vous écoute.
Non, ça ne me surprend pas, comme je le disais tantôt.
Mmh. Déjà, sans parler un commentaire hein, sur cette information, hein, donc Omar El-Béchir et trois autres inculpés sous le coup de mandat d'arrêt de la CPI pourraient donc être transférés à la haie. Quand on sait que Omar El-Béchir a été, d'une certaine manière, protégé hein, par plusieurs pays africains pendant plusieurs années, tant qu'il était aux commandes de l'État, on peut quand même, disons, se dire, voilà, il a fallu d'abord qu'il soit destitué, qu'il soit dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, pour que les Soudanais décident donc de l'envoyer. Quelle leçon peut-on tirer, je dirais, de cette situation, de ce cas particulier? Vincent Sompare?
Oui, Francis, moi je... Quand j'ai appris justement, quand j'avais lu ça, parce que moi je l'ai lu dans les médias, quand je l'ai lu, j'étais un peu surpris qu'en tout cas le pouvoir actuel puisse aller dans cette démarche-là, parce qu'il ne faut pas oublier, le cas ivoirien est une devrait donc servir de leçon pour beaucoup de pays africains, où il faudrait déjà protéger, parce que vous voyez, c'est un président qui a fait des années donc de gestion, qui a été non fort, et aujourd'hui ceux qui sont en tout cas au pouvoir, ont évolué avec lui pendant un bon temps. Donc moi je me dis que ça allait être une très mauvaise démarche donc de l'amener vers ces pays quand on sait que il a eu en tout cas à gérer avec l'armée, il a donné une bonne partie donc du pouvoir à l'armée. Et aujourd'hui c'est vrai que il est dans une situation un peu complexe, mais moi je pense que la solution d'un jugement au pays serait mieux, puisque ça peut créer des soulèvements, ça peut créer même de l'instabilité au niveau du pays, même si aujourd'hui l'homme est en tout cas caserné quelque part, il a quand même des soutiens, et c'est ce qu'il faut protéger, surtout la paix au Soudan.
Il faut protéger la paix, donc la paix passe aussi par ce transfert d'Omar El-Béchir à la CPI, c'est ce que vous dites?
Non, moi, au contraire.
Ah, c'est le contraire, comme vous dites.
L'amener à la CPI, vous savez un peu comment... Le regard que beaucoup de la population africaine a de la CPI le plus souvent, c'est pas un regard positif. Moi, je me dis que l'amener à la CPI, c'est un peu comme si on lui livrait un peu à l'Occident. Donc, finalement, je pense que le mieux, ce serait donc de garantir les conditions de son jugement au pays. Si on peut accompagner la justice soudanaise pour que ça soit en tout cas un jugement serein, un jugement honnête, un jugement vraiment qui pourrait satisfaire la population, ça serait mieux que de l'amener vers au niveau donc de la CPI et voir un président loin de son pays, jugé par le plus souvent des blancs. Je m'excuse, mais il faut le dire ainsi. Ça va donner une autre connotation et ça peut créer de l'alignement et de l'instabilité.
Ce qui est surprenant, c'est que voilà, ceux qui parmi ceux qui aujourd'hui donc plaide pour ce transfèrement, certains étaient ses principaux soutiens il y a quelques temps encore et qui justement défendaient sa cause, hein, ceux qui ont gouverné avec lui, qui aujourd'hui se retournent contre lui.
Justement, c'est pourquoi il dit qu'il a eu son régime a été donc bien ficelé par l'armée, mais également ceux qui sont à la tâche aujourd'hui, ceux qui sont en train de gérer. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'on est en train de se débarrasser de celui-là avec lequel on a eu à poser tous les actes.
Oui.
Ça va être très compliqué pour le pouvoir actuel.
Oui.
Il faudrait qu'ils assument. Ils acceptent donc d'aller vers un jugement. Il faudrait qu'ils assument. Mais aller le livrer à la CPI, c'est comme si on se débarrassait de quelque chose qui est en tout cas d'un cadeau.
Vous serez partisan, en fait, d'un tribunal, disons, national, hein, en tout cas soudanais, pour juger Omar El-Béchir, hein. C'est ça?
Oui, avec l'aide également de la communauté internationale qui fait accompagner le pays.
Un peu comme ce fut le cas pour Hissène Habré au Sénégal.
Effectivement, effectivement.
Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter les messages de nos auditeurs, messages postés sur notre page Facebook, recueillis et livrés à présent par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali Mefiskiti estime que le dialogue est une nécessité pour la sortie de crise au Mali. Il précise cependant que l'État malien doit faire preuve de vigilance afin de ne frustrer personne. Pour Djimran Tchandjoum Ozana, il ne faut en aucun cas initier un dialogue avec les djihadistes car le seul but de ces derniers est de semer la terreur. Barry Ousmane lui s'interroge sur les raisons de ce changement de cap du président Ibeka dans la lutte contre le terrorisme. Il demande à notre grand témoin si cela n'est pas un aveu d'échec du gouvernement malien face à la menace terroriste. Guinéen Charles Bazema affirme que l'Afrique et les Guinéens comprennent maintenant pourquoi Alpha Condé tient à son référendum. Pour lui, le président guinéen a avoué à demi-mot sa volonté de faire un troisième mandat. Soudan, pour Paul Juris Eda, l'Afrique ne doit plus livrer aucun de ses fils à l'Europe pour être jugé. Notre internaute de Cotonou au Bénin se demande combien d'Européens ou d'Américains sont devant la CPI. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci Didier Ladislas Landau, bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Lassine Boiré, monsieur le ministre, alors c'est la tradition dans l'émission, on vous demande à présent une conclusion générale, peut-être en répondant à la question, c'était une question centrale hein, dans ces interventions, ces messages postés sur Internet, un auditeur qui vous demandait si ce dialogue que voudra engager l'État avec des groupes djihadistes, voire terroristes, s'il ne s'agit pas là d'un aveu d'échec face, de l'État face à la menace terroriste. En quelques mots.
Non, c'est pas un aveu d'échec. La gestion de ce genre de situation, il ne faut pas agir ni réagir avec le cœur. Il faut avoir des comportements rationnels et poser des actes qui sont dans l'intérêt de la plus grande majorité, et particulièrement des plus vulnérables.
Mmh.
Et dans une situation de ce genre, tout le monde sait bien que les principales victimes,
oui,
essentiellement celui qui ne veut que vaquer à ses occupations les plus modestes, aller à une foire, faire perdre ses animaux. Donc la paix a un coût, mais elle n'a pas de prix.
C'est ça.
Donc dès lors qu'il en est ainsi, nous sommes prêts à investir et tout ce qui est à notre possibilité, y compris cette volonté de discuter avec l'ensemble des acteurs, pour aboutir à cette paix.
D'accord, vous dites donc que ce n'est pas une décision émotionnelle, mais politique et rationnelle, dites-vous.
Non, c'est pas l'émotion, c'est la rationalité.
Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Lassine Boiré, ministre
beaucoup
de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale du Mali. Merci à notre confrère Idrissa Sompore, journaliste à Espace FM, installé à Conakry. L'émission a été réalisée à Paris par Hugo Vallière. Chargé de production à Dakar, Didier Ladislas Landau. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous à l'écoute de nos radios partenaires. Au revoir.